Moins 5,16% lundi, plus 2,82% mardi, moins 4,15% mercredi, plus 3,28% jeudi et moins 0,04% vendredi. Et ça, c'est juste pour le SMI qui est supposé être un indice calme et défensif. Je vous laisse imaginer comment ça s'est passé sur le Nasdaq ou sur le Stoxx qui ont officiellement complètement pété les plombs. Je crois que j'ai pas besoin de vous dire que la semaine a été volatile et complètement débile, et tout ça rythmé par les volte-face du président Trump qui a dû confondre la kétamine et le sucre en poudre pour mettre sur les donuts. Toute la semaine aura donc été totalement ridicule en termes de comportement boursier et de volatilité, et le délire aura été mercredi soir. Le top du délire aura été mercredi soir avec l'annonce de moratoire de 90 jours pour permettre aux pays ayant un déficit commercial avec les States de négocier et de se mettre en règle avec les délires du président américain. On ne va pas juger ses intentions ou ses décisions, mais toujours est-il que ce qui se passe depuis son investiture et surtout depuis 10 jours, depuis le Liberation Day, aura donc poussé pas mal de monde à tourner la veste sur les prévisions économiques des mois à venir. On fait le point là-dessus, mais aussi et surtout sur la pharma qui en prend plein les dents. Et pour pas grand chose de concret, juste après le générique. Je suis Thomas Bayet, bienvenue dans le Swiss Bliss du week-end. Nous sommes le 12 avril et j'espère que vous avez profité du soleil, parce qu'apparemment, il sera plus là pendant un moment. Bon, je vais donc pas revenir sur les volte-face de Trump, on en a largement assez parlé ces jours, et à moins d'avoir passé la semaine dernière sur une île déserte en dehors des routes maritimes, je suppose que vous devez plus ou moins être au courant. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que moratoire ou pas moratoire, les 90 jours ne suffiront probablement pas à tout régler. On ne peut pas changer ce qui existe depuis des années en quelques jours, et cet état de fait provoque un séisme dans la tête des investisseurs, mais aussi dans la tête des analystes et autres économistes. Tout le monde est en train de réviser ses attentes pour le futur, et il y a comme un vent de panique et de doute qui plane sur les marchés financiers. Tenez, on a appris la semaine dernière que les analystes prévoient actuellement une croissance globale des bénéfices des sociétés qui sont membres du S&P 500 de 8% pour les 3 premiers mois de l'année, ce qui est quand même nettement moins optimiste que la croissance de 12,2% qui était prévue au début du trimestre. Bah, il est vrai qu'on anticipait un délire aussi phénoménal, puisqu'à l'époque, on était encore convaincu que les tarifs de Trump ne seraient pas un problème pour l'économie et ne généreraient ni inflation, ni récession et ni stagflation, plutôt uniquement joie et bonheur. Pourtant, aujourd'hui, tout le monde est en train de baisser les pantalons et de pagayer en marche arrière, puisqu'on entend parler un peu partout de récession à coup sûr, et que si récession américaine il y a, c'est le monde entier qui va en prendre pour son grade. On parle aussi de stagflation, que la croissance molle que Trump est en train de créer, ainsi que l'inflation que les droits de douane vont provoquer, ne vont pas laisser d'autre choix à la Fed que de faire une Volcker, à savoir monter les taux de 15% pour tuer l'inflation. Et je pense que les taux 15% plus hauts en ce moment, on adorerait. Mais c'est assez impressionnant de voir comment, en l'espace de 3 mois, les experts à Wall Street, qui étaient tellement convaincus que Trump serait le nouveau booster économique sans inflation, et que là, tout de suite, tout le monde est en mode panique et en révision de l'avenir à la baisse. La semaine aura donc été complètement débile et volatile comme rarement. Même si la VIX n'a quand même pas atteint les records de la période des subprimes, le doute et l'incertitude qui planent sur les décisions de Trump et son équipe de bras cassés n'a pas vraiment permis au marché de trouver calme et sérénité. Et je crains que ça ne soit pas terminé à voir la schizophrénie ou la bipolarité qui semble posséder Donald Trump. Cette semaine, j'ai publié une vidéo qui s'intitule « Et si Trump avait raison ?». Alors, je ne vous ai pas oublié, je suis en train de travailler sur la seconde vidéo, la suite qui s'appelle « Et si Trump avait tort ?». Mais je dois dire que ça n'est pas simple de parvenir à avoir une vision de l'avenir. Je suis convaincu qu'il y a des opportunités massives dans le marché, mais il faudra aussi être très patient, parce que les aftershocks qui vont encore se produire ces prochaines semaines et ces prochains mois risquent d'être très violents. Mais bon, pour l'instant, ce qu'on va essayer de vivre, c'est dans l'instant présent, et on retiendra que pour le moment, il y a un moratoire de 90 jours pour tout le monde, et que les USA sont en train de se foutre sur la gueule à coups de droits de douane avec la Chine. Bon, vous me direz qu'on préfère que ça soit à coups de droits de douane plutôt qu'à coups de missiles longue portée à tête nucléaire, mais quand même, ça devient pénible. Alors actuellement, je crois, je suis même pas sûr, parce que ça change à peu près toutes les 22 secondes, que les deux pays en sont à 145% de droits de douane, sauf exception. Et si vous voulez un tout petit exemple des impacts que cela peut avoir, eh ben, vendredi soir, par exemple, Texas Instruments s'est pété la gueule après que les autorités chinoises ont déclaré que les entreprises de semi-conducteurs ayant des installations de fabrication aux États-Unis seraient soumises à des droits de douane de 84%. ou plus. C'est surtout le ou plus qui est très sympa parce que ça veut aussi dire non limite. Par contre, l'association chinoise de l'industrie des semi-conducteurs, qui est soutenue par l'État, a exempté quand même plusieurs fabricants de puces, dont Nvidia ou Qualcomm, qui eux externalisent leur production. Et puis en même temps, on a quand même besoin des puces pour l'intelligence artificielle, parce qu'on va quand même pas abandonner l'intelligence artificielle, même dans une crise mondiale. Donc Texas Instruments a perdu 30% depuis le 20 février, et le pire, c'est que s'ils externalisent leur production en Chine, bah ça va prendre au moins 5 ans pour construire une usine là-bas, et 25 secondes pour se fâcher définitivement avec Donald Trump. Et puis, il y a eu des chiffres économiques. Oui, je sais, vous n'en avez pas entendu parler, mais c'est surtout parce que tout le monde s'en fout. Pourtant, il y a quand même eu le CPI américain, et je dois vous dire que c'est quand même super drôle, parce que ils ont quand même réussi à nous sortir un chiffre qui est le plus faible depuis 2021. On est donc dans une semaine en panique maximale parce que l'inflation va exploser à cause des droits de douane, et le CPI, il sort tout faiblard comme s'il sortait de 6 mois de gastro. Et il y a même un économiste qui estime que la baisse du CPI est une véritable surprise à la limite de l'incompréhension. Même en examinant les détails, il ne trouve aucune explication pour la baisse du CPI. Et s'il y a un truc super drôle surtout, c'est que les prix des véhicules neufs à l'intérieur du CPI n'ont augmenté que de 0,1% en glissement mensuel, et ceux des voitures d'occasion ont même baissé de 0,7% sur un mois. Alors au-delà du fait qu'on a fait certains calculs qui laissent à penser que les tarifs de 25% sur les voitures vont coûter 41 milliards par an aux fabricants de voitures qui voudront exporter aux USA, ils vont donc certainement répercuter ça sur le prix des voitures. Et il faudra aussi retenir que le patron de CarMax, gros vendeur de voitures aux States, estimait la veille de la publication du CPI que le prix des voitures d'occasion était en train de s'envoler. Donc visiblement, entre le BLS qui publie le CPI et les vendeurs de voitures, on n'est pas tout à fait d'accord, et ils ont visiblement pas étudié les mathématiques de la même manière. Ah oui, et puis encore, hier le PPI s'est également montré très faiblard. Alors oui, tout le monde s'en fout, parce que tout le monde pense que l'impact des droits de douane ne s'est pas encore fait sentir, puisqu'ils n'ont pas été vraiment mis en place. Mais ça va venir, et c'est ce qui fait peur au marché pour l'instant, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on est dans l'incertitude. Bref, pour l'instant, la panique est toujours à nos portes. Donc la crainte est là, hein, on va pas se mentir, et du coup, bah, l'amélioration de l'inflation sera quasiment passée inaperçu. Et pendant ce temps, d'ailleurs, l'indice Trueflation, qui est l'indice live de l'inflation, estime que l'inflation, pour l'instant, est de 1,34%. Donc si tout va bien, ça va vers le mieux. Faudra juste voir ce qui va se passer avec les droits de douane. Mais est-ce que les gens vont vraiment consommer avec ces prix super beaucoup plus élevés? On peut se poser la question. Peut-être que finalement, on nous prend un tout petit peu pour des cons dans cette histoire. Et puis, puisque l'on parle de chiffres, on notera aussi que la confiance du consommateur version Université du Michigan, qui est une daube sans nom, elle est sortie au fond du trou, et on a de quoi s'inquiéter, mais bon, c'est un sondage qui est toujours un peu discutable. Et puis, en même temps que tout ça, eh bien, les premiers chiffres du trimestre sont arrivés hier. Et d'ailleurs, peut-être que ces derniers vont faire diversion pour les semaines à venir. En tous les cas, que ce soit JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock ou Morgan Stanley, tout le monde a fait mieux que les attentes de Wall Street. Forcément, les attentes de Wall Street sont devenues tellement basses que c'est comme si on vous demande d'aller sauter par-dessus une barrière de 25 cm, alors que l'année passée, à la même date, bah, il fallait passer 2,20 m en Fosbury. Par contre, il y a une chose qu'il faut retenir pour ces prochains temps, ces prochaines semaines, c'est le comportement du marché obligataire. J'en ai parlé hier dans le Morning Bull, et c'est un problème qui devient quasiment obsessionnel pour les marchés et pour l'ensemble des médias financiers. Hier encore, dans sa lettre aux actionnaires, Jamie Dimon, le boss de JP Morgan, a estimé que les fortes turbulences sur le marché des treasuries, qui représentent quand même la bricole de 29 000 milliards de dollars, pourraient donc forcer la Fed à intervenir, sauf si on change enfin les règles bancaires jugées profondément défaillantes. Il critique donc le fait que chaque fois qu'il y a une panique sur les marchés, la Fed doit enfiler son costume de super-héros, puisque selon lui, les réglementations actuelles empêchent les banques de jouer leur rôle d'intermédiaire, ce qui empire les choses à chaque période de stress. On est dans une période de stress, et Dimon exprime qu'il faudrait quand même faire attention, sachant qu'il a vendu ses actions avant la baisse, et puis qu'il avait plus ou moins bien vu le retour de l'inflation, bien avant que tout le monde commence à en parler, en tout cas cette inflation liée aux droits de douane, on peut lui donner un minimum de crédit. Trump, de son côté, lui, bah, il a rallumé la guerre commerciale avec de nouveaux tarifs avant de faire machine arrière. On connaît l'histoire. Résultat, les rendements sur les treasuries long terme s'envolent, le dollar dégringole, les marchés partent en vrille. Et attention, la Chine reste quand même un gros, gros, gros détenteur de bons du trésor américain, et ils n'ont pas été inclus dans la pause des 90 jours, ce qui pourrait refroidir sérieusement leur envie d'acheter de la dette américaine. En résumé, la Chine boude, les taux longs explosent, le dollar se ramasse et les marchés ressemblent à une piste de luge olympique. On a 7500 milliards de dettes à refinancer en 2025, mais plus personne ne veut en acheter. Super. super timing. Et si on ne revoit pas les règles du jeu, eh ben les banques vont rester les bras croisés pendant que l'incendie est en train de se propager. Mais bon, apparemment, ça va, c'est pas grave, parce qu'il y a toujours quelqu'un à la Fed qui peut sortir l'extincteur, mais ça serait quand même bien qu'ils montrent qu'ils sont vivants à la Fed, hein. Mais espérons qu'il faille pas attendre le 7 mai et le meeting de la Fed pour avoir des nouvelles. Bon, étant donné la tronche du marché obligataire et du nombre d'articles sur le sujet et des marchés qui sont hyper volatiles, on risque d'en entendre parler un peu plus que les chiffres de LVMH attendus la semaine prochaine. En Suisse, le moral du consommateur s'est quelque peu amélioré le mois dernier, bon ça risque de changer le mois prochain, même s'il reste quand même globalement morose. L'indice du climat de consommation est sorti à moins 35 points en mars, se hissant de 3 points au-dessus de son niveau de mars 2024, selon notre fabuleux secrétariat à l'économie que l'on surnomme le SECO. Et pour conclure ce point de situation, bah, j'ai envie de vous dire que nous sommes dans une belle merde, et que le marché est au bord de la crise de nerfs, que les gens sont en panique, et qu'ils ont complètement oublié leur optimisme du début d'année, quand le Bitcoin devait aller à 250 000, quand le S&P 500 devait aller à 7 000, et Nvidia vaudrait 200 $. Aujourd'hui, on a peur, mais la seule bonne nouvelle, c'est qu'il ne suffirait de pas grand-chose pour que ça tourne très très vite. Pas grand-chose comme un accord miracle avec la Chine. Si on prend les performances de la semaine, alors ça veut pas dire grand-chose, parce que vous avez vu la volatilité sur les marchés. Néanmoins, le SOX récupère 11%, vous avez le Nasdaq qui récupère 7,3%, l'or qui monte quand même de quasiment 7%, et puis bah, vous avez après derrière le Bitcoin qui ne fout rien, le Nikkei qui est en baisse, il ne perd que 0,58%, mais il bouge de 5% dans un sens ou dans l'autre tous les jours. Le pétrole qui est en baisse de 0,79%, toujours relativement faible, ça sauve un peu la thématique de l'inflation. Le DAX qui finit en baisse de 1,3%, tout comme le CAC qui perd 2,34% parce qu'on était un petit peu perturbé à cause de la volatilité décalée sur les marchés américains. Et puis vous avez Shanghai qui perd 3,11%, ça on n'a pas besoin de chercher où est le problème à cause des tarifs douaniers américains. Et le SMI qui est un des pires losers de la semaine avec 3,57% juste derrière le Hang Seng qui abandonne 8,5% pour les raisons qu'on connaît là aussi. Le SMI se prend une tôle monumentale, principalement à cause des pharmas qui se font massacrer. Ça, on va en parler dans 5 minutes, parce que c'est le thème de la semaine qu'il faut un petit peu creuser un peu plus loin que d'habitude. Le SMI, vous avez vu, belle unité. Bon, on a quand même Lonza et Geberit qui s'en sortent. Mais sur le reste, hein, vous voyez que tout le monde est plus ou moins en baisse. Alors, c'est impressionnant de voir des URI qui perdent 6,4%, alors que du coup, le dividende devient super intéressant. Logitech, de toute façon, c'est une tech, personne n'en veut. Et Richemont ne fait rien malgré la crise avec la Chine. Et puis alors, vous avez Novartis qui perd 6,45% sur la semaine. Nestlé qui perd 2,72% sur la semaine. Et Roche qui perd 6,88% sur la semaine. Alors, quand vous avez ces trois-là qui perdent ces montants-là, je crois que Nestlé représente 23% dans le SMI et que les deux pharma en même temps représentent 30%. Donc vous avez ces 53% du marché qui se font défenestrer, et forcément vous avez un SMI qui se fait éclater la tronche beaucoup plus bas. Et ce qui est assez marrant et ce qui est assez paradoxal, c'est quand même qu'on a appris malgré tout qu'à la base, pour l'instant je dis bien, il n'y a pas de taxe douanière sur les pharma. Mais on va en parler tout de suite, juste après le point technique. Alors pour ce qui est du point technique, je vous préviens tout de suite, ça va être assez court et assez simple, parce que quand vous allez voir la gueule des charts, de toute manière, il n'y a vraiment rien à dire et rien à faire, et pas grand chose à chercher comme point d'inflexion ou comme canot de tendance. Mais on va quand même jeter un œil très très rapidement sur cette thématique technique de la semaine. Voilà, je vous disais que ça ressemblait pas à grand chose, donc vous voyez la Suisse, hein, on s'est pété la gueule, et puis on a fait des allers-retours toute la semaine. Aujourd'hui, ce qu'il faut surtout regarder, c'est que on est revenu à des points relativement bas sur le SMI, donc on est plus bas que le moment où on a déclenché notre rebond il y a quelques temps, où finalement on a commencé à se réveiller. On n'est pas encore aussi bas que on était en novembre 2023, donc on a encore un bout de chemin à faire. Et par contre, on a quand même atteint des niveaux super bas, puisque l'un dans l'autre, on est on a encore de la marge par rapport au Covid, mais vous voyez que les extrêmes qui datent, on va dire, de septembre 2022, c'est encore 10 000. Donc on a encore un peu de marge pour taper dessus. La tendance, on va dire, haussière qu'on avait déclenchée depuis quelques temps, elle est clairement morte pour l'instant, puisque vous voyez que là, on a cassé. Il faudrait qu'on revienne au-dessus des 11 600 pour pouvoir respirer un petit peu mieux à nouveau. Mais pour l'instant, le maître mot de la semaine sur le SMI, comme sur le reste, eh bien sûr, c'est volatilité. Volatilité, il y en a partout. Vous voyez que le S&P 500 se fait bien éclater aussi. En fin de semaine, dernier jour, vendredi, on a quand même repris un bon bout de chemin. On revient à des niveaux un peu plus cohérents. Mais néanmoins, vous avez quand même cette zone, et cette zone qui est hyper délicate. Vous voyez énormément de volatilité, un plus bas autour des 4 800, un plus haut autour des 5 500. c'est monstrueux pour le S&P 500 et ça déclare, ça montre clairement que, eh bien, c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Et puis, on n'en parle pas parce qu'on est bien occupé par autre chose, mais pour l'instant, vous voyez, on a quand même dessiné une dead cross sur le S&P 500, puisque la moyenne mobile des 50 jours est en train de passer en dessous de la moyenne mobile des 200 jours. Donc, c'est pas des très très bonnes nouvelles sur le S&P, puisque vous voyez, la dernière fois qu'on a eu ce genre de mouvement, à la hausse cette fois, eh bien, on était en octobre 2023, quand tout d'un coup, on a commencé à parler de changement de politique de la Fed. Donc, probablement que si on veut rester dans cette tendance haussière, on peut avoir un inversement de tendance, mais quand même, il va falloir que la Fed intervienne assez rapidement ou montre sa velléité, sa volonté de faire quelque chose. Le Nasdaq, c'est pareil, là aussi, dead cross, vous voyez, hein, donc... La dead cross, c'est toujours inquiétant puisque c'est quand même un signal de tendance qui est en train de se montrer. Mais pour l'instant, on a un peu sauvé les meubles en fin de semaine. La semaine qui nous attend sera importante et comme je vous le disais en ouverture de cette vidéo, ça peut tourner très vite. Il faudrait simplement qu'on arrive à trouver des arrangements avec la Chine. Je vous montre le semi-conducteur index parce qu'il a pris 10% cette semaine, donc ça vaut quand même la peine d'en parler. Mais quand même, souvenez-vous, hein, on avait cette tendance latérale dans laquelle on était depuis longtemps, et là on est sorti et on est en train de remonter pour aller la tester. Il faut vraiment qu'on arrive à venir s'établir au-dessus des 4350 pour commencer à dire qu'il y a quelque chose qui se dessine. Et pour l'instant, ma grande crainte, c'est de venir voir taper les semi-conducteurs, cet ancien support qui est devenu résistance, et voir le truc repartir à la baisse. Hein. Alors là, les moyennes mobiles n'ont plus rien à voir, parce que vous voyez qu'elles sont toutes dans la même direction. La dead cross, elle est déjà dessinée depuis un bon moment. Donc là, on a une accélération, et il va chercher le fond sur les semi-conducteurs. Peut-être, je dis bien peut-être, que le fond viendra avec toutes les publications trimestrielles qu'on va avoir ces prochains jours, puisque ça sera bien sûr le début de la saison des résultats à pleine bourre, et que les premiers chiffres sur les semi-conducteurs, on a ASML qui publie la semaine prochaine, je crois qu'on a aussi TSMC qui va publier. Ça vous donnera une petite indication parce que je crois qu'aujourd'hui, les attentes de Wall Street sont tellement basses qu'il faudra faire très attention. Mais surtout, ce qu'il faudra faire très attention, c'est les publications et les discours du management qui vont s'exprimer un peu sur leurs attentes de ces prochains temps à cause de la crise économique et de la crise des tarifs. Et ça sera extrêmement intéressant dans les deux sens. Le DAX, ça veut plus rien dire. Vous voyez que notre tendance de fond a tenu, mais vous voyez que les comportements, il y a des gaps partout. Et le marché ne fait que de suivre les mouvements du marché américain, mais c'est extrêmement violent. Le CAC 40, c'est pareil, ça va dans tous les sens. Vous regardez aussi les niveaux quand même qui sont extrêmement bas sur le CAC. On clôture la semaine en dessus des 7000, ce qui est un quasi-miracle, puisque finalement, on est exactement au même niveau à l'époque où on s'est rendu compte que la France était plus gouvernée et totalement ingouvernable. Donc on est à peu près à ces niveaux-là, et ce serait quand même inquiétant que le CAC vienne s'établir en dessous des 7000, surtout avec les brillants politiciens qui aujourd'hui dirigent la France. Quand vous voyez Bayrou qui fait ses discours, on voit vraiment qu'il est au top de sa forme. Et on voit qu'il maîtrise vraiment son sujet. Incompréhensible de voir le CAC aussi bas, ne serait-ce que politiquement parlant. Le pétrole, vous voyez que le pétrole... Alors ça, c'est un des gros arguments au niveau de l'inflation. Est-ce que ça, cette baisse violente du pétrole, va soulager un petit peu la thématique de l'inflation? Pour l'instant, on a l'impression qu'en voyant les chiffres, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Néanmoins, on a vu là aussi beaucoup de volatilité. À la première bonne nouvelle, quand Trump a fait sa volte-face, je rappelle quand même que le pétrole était à 55$. Et donc là, on a quand même récupéré 6$ sur la semaine. Mais on est encore bien loin de cette tendance de fond où on devrait se raccrocher au-dessus des 70$. L'or, lui, c'est la valeur refuge par excellence. On est au plus haut de tous les temps, 3236. Que vous dire de plus? Pour l'instant, on a l'impression que dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, dès qu'il y a un stress, les gens achètent de l'or, de toute façon. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'aujourd'hui, j'entends partout où je vais, partout avec qui je discute, que ce soit à la télé, à la radio, tout le monde parle d'acheter de l'or parce que c'est la seule alternative. Bon, ça rapporte rien non plus, hein. Puis faites attention comment vous achetez de l'or aussi, parce que si vous achetez de l'or avec des espèces de trackers, avec des swaps derrière, c'est toujours extrêmement délicat. Néanmoins, voilà, l'or est au plus haut de tous les temps, qu'ajouter de plus. Regardez maintenant l'indice Greed and Fear, vous voyez qu'on est à 13. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que bah là, on voit un rebond quand même, bien sûr, au niveau de la peur. On est toujours dans cette zone d'extrême peur sur le Greed and Fear Index, donc ça ne change rien. Mais par contre, il faut quand même noter qu'au cœur des droits de douane, au cœur de la crise, mercredi matin, on était à 3. Sur l'extrême fear, donc on était vraiment extrêmement apeuré, et la volte-face du président américain mercredi soir a fait monter quasiment instantanément l'extrême fear index de 3 à 17, et là on revient un petit peu en fin de semaine. La VIX, là aussi, ça va dans tous les sens. Vous voyez qu'on a des journées absolument dantesques, puisque on a fait un top récemment, donc à 60% sur la volatilité. Par contre, on a eu des mouvements intraday, où typiquement mercredi, vous avez quand même un bas à 31,56 et un extrême haut à 58. Donc vous voyez que ça va vraiment dans tous les sens. Ce qui est assez atypique, c'est que finalement, vous voyez que récemment, chaque fois qu'on a eu des pics de volatilité, c'est un pic de volatilité, puis derrière, on se dégonfle directement derrière. Et là, non, on est plutôt en train d'avoir un pic de volatilité et de chercher finalement où est la moyenne de la vol. Alors, c'est difficile à dire pour l'instant, mais vous voyez comme depuis longtemps, on se traite à des moyennes de vol en dessous des 20. Là, on a l'impression qu'on va devoir s'habituer, pour l'instant, en tout cas, tant que Donald Trump n'a pas trouvé de solution pour ses tarifs, à une volatilité qui risque d'être au-dessus des 30. C'est donc un marché de trader, comme on dit, dans le métier. Dans les nouvelles de la semaine, eh bien, c'est pas vraiment beaucoup de vedettes, hein. Il y a beaucoup de mouvements extrêmement violents, difficiles à identifier tout le temps, mais pas beaucoup de vedettes. Donc cette semaine, la Suisse a surtout été victime du reste du monde et des angoisses sur la pharma, bien sûr. Il n'y a donc eu que très peu de vedettes, mais parlons déjà de la pharma et de la météo du côté de Bâle. Et pour ça, on attaque avec Novartis. Novartis prévoit d'investir 23 milliards de dollars aux États-Unis au cours des 5 prochaines années. Les Balois ont annoncé ça jeudi soir. Ils veulent étendre leur activité R&D, Research and Development, avec un nouveau centre de recherche qui coûtera plus d'un milliard, qui sera proche de San Diego. Novartis prévoit également de construire 4 nouveaux sites de production, dont 3 produiront des produits biologiques et pharmaceutiques, ainsi que des dispositifs d'assemblage et d'emballage. Visiblement, ils ont bien compris le message de Donald Trump et n'ont pas l'air d'avoir envie d'attendre de voir comment les droits de douane se développent pour agir. Alors Novartis mis à part, on retiendra que le secteur de la pharma s'est juste fait massacrer durant toute la semaine, et ce même si, pour le moment, il n'y a pas de droits de douane qui sont prévus. Pourtant, ça menace déjà du côté de Washington. Donc aujourd'hui, dans le Swiss Beast, on va prendre un petit peu de temps pour parler pharma, douane et mauvaise comédie. Parce que si tu as l'impression que Donald Trump écrit sa politique commerciale comme un tweet posté sous vodka Red Bull, eh bien c'est qu'on a probablement raison. Les marchés ont massacré le secteur pharma depuis 10 jours. Moins 14% en une semaine, moins 20% sur le mois. Roche et Novartis ont perdu plus de 6% toutes les deux, rien que cette semaine. Et c'était après la volte-face, parce que avant c'était pire. Alors pourquoi des mouvements aussi violents sur la pharma? Parce que c'est pas que Novartis ou Roche, si vous regardez en France, Sanofi s'est fait déglinguer également. Eh ben Trump. Et toujours Trump, et Trump encore, parce que Trump menace de coller entre 25 à 125% de droits de douane sur les médocs importés aux USA. Et là, c'est bien sûr la panique générale. On parle donc de médicaments vitaux, hein, pas des sneakers ou du bourbon ou de Dom Pérignon, juste des médicaments que tu as besoin pour survivre dans certains cas. Donc si tu taxes ça, qui va payer la note? Spoiler alerte, les patients américains en premier et les fabricants de médoc en second, quoique eux, ils peuvent augmenter les prix et conserver leur marge. Pas sûr qu'ils veuillent se sacrifier pour les patients, tu comprends, à cause de l'argent de nouveau, quoi. Et puis surtout là-bas, le prix des médicaments n'est pas régulé comme chez nous, autant dire que ça pourrait vite coûter un rein, voire les deux, plus un morceau du foie. Mais quel est l'objectif de Trump dans tout ça? Tout d'abord, assez logiquement, petit 1, ramener la production aux États-Unis. Ça, c'est sa grosse volonté. Est-ce que Novartis... Et qu'est-ce que Novartis a annoncé jeudi? Je viens de vous le dire, si vous avez écouté. Ils vont délocaliser leur production aux États-Unis. Et gros petit 2, récupérer les impôts perdus dans les paradis fiscaux, genre l'Irlande, par exemple. Bon, noble intention pour les taxes, mais le timing, la méthode, la logique, tout est complètement idiot et quasiment irréaliste. Non, parce que construire une usine pharma aux États-Unis, c'est 2 milliards de dollars au moins et 5 à 10 ans de boulot pour arriver à un truc qui tourne vraiment. Donc à court terme, ça ne sert à rien si ce n'est à foutre les marchés en panique ou alors à obliger certains pays à venir négocier. Ce qui est assez drôle, c'est que tout le monde flippe comme si Big Pharma allait absorber tous les coûts. Mais bon, les gars, soyons sérieux, hein. Les boîtes vont refiler la facture au client final et vu la nature des produits, genre médicaments pour rester en vie, la demande ne va pas forcément s'effondrer. Résultat, oui, ça va peser un peu sur les marges, mais pas autant que le marché semble vouloir le croire. Conclusion dans tout ça, les pharmas innovantes ont pris une baffe disproportionnée, à mon sens, et pour les investisseurs, ça commence à sentir peut-être la bonne opportunité. Alors, si vous voulez du solide, du défensif et du type « j'en ai rien à foutre de Trump », allez voir des boîtes comme Novo Nordisk, Roche, Novartis, Sanofi, ou d'autres big pharma qui sont plutôt sérieuses. Entre nous, vu la vitesse à laquelle Trump retourne sa veste tarifaire, il se pourrait même qu'on reparte bientôt d'un recul pur et simple sur ce dossier-là, aussi. Moralité pour les pharma et moralité pour la semaine, quand Trump menace, les marchés surréagissent et quand il change d'avis, c'est trop tard, tout le monde a déjà vendu. On se souvient de cet adage qui dit qu'il faut acheter quand il y a du sang dans la rue. Bon, adage qui claque beaucoup mieux en anglais parce qu'on dit « buy when there is blood on the street ». Il est peut-être temps de se dire que Roche et Novartis ne vont pas disparaître demain et que certaines baisses débiles du SMI cette semaine ne sont pas étrangères à cette angoisse qui pèse sur la pharma suisse, surtout quand le couple Roche-Novartis représente 30% de l'indice à L2. Alors là, je vous montre quatre graphiques. Je commence avec le bon Roche. C'était à 310, on est à 243. On était à 231 au plus bas. On peut se poser des questions. Novartis, regardez, on était quasiment à 100 balles, on est de retour à 86. Au plus bas, on est allé à 91,13. Regardez ces tendances latérales de fond sur lesquelles on est sur Novartis depuis longtemps. Je vous l'ai dit 1500 fois. Il faut acheter en bas du canal. Regardez où on est aujourd'hui. C'est juste complètement ahurissant et complètement débile à mon sens. Regardez Novo Nordisk. Novo Nordisk, au mois de juin 2024, ça valait 1036 couronnes danoises. Et aujourd'hui, ça vaut 410. 410, les ventes de Ozempic et tous les médicaments pour maigrir font toujours un carton et ça reste toujours très populaire. En plus, le médicament se développe sur plusieurs autres types de maladies. L'autre jour, alors qu'on commençait à reprendre un petit peu espoir, on était à 560, on est à 420. Donc d'accord, les gens vont plus prendre de médicaments pour maigrir, ils vont se contenter de faire du sport et faire des régimes. Bien sûr. Et Sanofi, alors voilà, pareil Sanofi, je l'avais déjà montré cette semaine, le titre est en baisse de 15% depuis quelques jours, on vient de 111, on est à 86. Regardez d'où vient Sanofi sur le graphique. Je veux pas dire que tout va se régler en 15 jours, mais quand on est à des niveaux pareils, sur une boîte pareille, alors que les résultats continuent d'être canons, ça me paraît juste complètement ridicule. Passons maintenant du côté des bancaires, puisque la grande banque ne veut toujours pas d'endurcissement de la réglementation en matière de fonds propres. C'est marrant parce qu'on dirait que c'est eux qui font la loi, c'est vraiment le 8e conseiller fédéral. On notera aussi que le tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours de la banque contre une décision de la cour d'appel du tribunal pénal fédéral dans l'affaire de blanchiment de l'argent de la mafia bulgare. Ça, c'est encore un truc, une casserole qui traîne du Crédit Suisse. Là aussi, vous voyez le graphique de l'UBS. L'autre jour, on tuait père et mère pour en acheter à 30 balles et aujourd'hui, plus personne en veut à 22. Alors oui, c'est vrai, le bond de market, ils vont gagner moins d'argent, ça va être beaucoup plus difficile. Les masses sous gestion fondent comme neige au soleil parce que les marchés sont en baisse. Mais là aussi, on vient à des niveaux, quand on voit les derniers résultats, ce sera intéressant de voir comment ça va se passer. Puis je vous rappelle aussi que cette semaine, les bancaires américaines ont publié des chiffres qui étaient meilleurs que les attentes. On se réjouit déjà de voir ceux de l'UBS qui arrivent tout bientôt. Chez Julius Baer, le président sortant du conseil d'administration du groupe bancaire, Roméo Lacher, a souligné jeudi lors de l'Assemblée Générale les leçons tirées de la débâcle et des crédits accordés au groupe Signa. On est content de voir que les banques apprennent des leçons. Par ailleurs, Noël Quinn a été élu nouveau président. Le gestionnaire de fortune zurichois poursuit également sa mue organisationnelle lancée en février, puisque l'opération passe notamment par la création d'une nouvelle subdivision du nouveau comité Global Wealth Management, baptisé Global Product and Solution. C'est super, on a trouvé de nouveaux noms pour dire la même chose. Je pense qu'il y a surtout des boîtes qui doivent cartonner, c'est les mecs qui font du marketing. Regardez-moi le graphique également de Julius Baer. Là aussi, regardez où on est. Malgré toutes les peurs qu'on a eues, tous les stress qu'on a eus, tous les trucs qu'on a laissés derrière nous chez Julius Baer, on est revenu au même niveau de l'affaire Signa, justement. On est à 49 balles sur Julius Baer, alors que tout le monde commençait à dire « Ouh là là, ça va beaucoup mieux !» Bref, même stress, j'ai envie de dire exagéré, qu'on a eu sur l'UBS ou qu'on a eu sur les pharma, ça me paraît juste un tout petit peu débile et un tout petit peu forcé, mais là aussi, on verra les prochains chiffres qui vont arriver. Mais vu qu'ils ont pris la leçon de Signa, ça devrait bien se passer. Autrement pour le reste, eh bien, Idorsia est en hausse la semaine dernière après avoir confirmé que le gendarme américain, la FDA, a levé l'exigence dite REMS pour son médicament contre l'hypertension Trivio à destination des femmes enceintes ou allaitantes. Vous voyez que l'impact sur le graphique, il est juste extraordinaire. Il ne s'est strictement rien passé. Ça a monté sur la nouvelle et puis on finit de toute façon la semaine plus ou moins au fond du bac, comme tout le monde. Chez Givaudan, autrement le géant verniolant des arômes et parfums, a donc généré des ventes en nette hausse au premier trimestre à 1,98 milliard de francs suisses. Je ne sais pas si ce genre de graphique vous inspire. Mais moi, pas du tout. Ce que je retiens, c'est qu'on a été testé la moyenne mobile des 50 jours et qu'on est revenu se planter en dessous et que globalement, ça fait un petit peu trop longtemps que ça ne veut pas vraiment remonter sur Givaudan qui souffre un peu à l'image de tout le reste malgré ses relativement bons chiffres trimestriels. On passe maintenant au vrac de la semaine parce que là, on arrive gentiment à des durées de vidéos qui sont absolument indécentes et moi, je dois aller faire le barbecue. Avolta, le spécialiste des boutiques hors taxes et de la restauration en voyage, a nominé deux nouveaux membres de son administration, ça vous fait une belle jambe. Et à moi aussi, Doc Morris, la pharmacie en ligne, a donc finalisé son augmentation de capital et levé 200 millions de francs suisses, pourvu que ça aille un petit peu mieux dorénavant pour Doc Morris. Comet, le chiffre d'affaires trimestriel du spécialiste fribourgeois des rayons X et des fréquences radio, a bondi 37,5% à 111,2 millions de francs suisses. Relief Therapeutics, la pharma genevoise, a fortement réduit son déficit l'an dernier à 17,12 millions de francs suisses contre 98,2 millions en 2023. Il y a des choses qui vont mieux. En revanche, Barry Calbo a littéralement bu la tasse. Les recettes du négociant en cacao et producteur de chocolat ont bondi de 57% à 7,29 milliards de francs suisses au premier semestre. Mais ça n'a pas du tout suffi pour les investisseurs. Bon, Barry Calbo avait déjà pris une secouée ces derniers temps à cause des prix du cacao et des résultats qui étaient pas terribles et des profit warnings. Voilà, c'est de pire en pire, hein. Là aussi, vous voyez d'où vient Barry Calbo. Les graphiques n'ont juste plus rien à voir. Ça valait 2400 balles en 2021. Ça vaut 757 francs en clôture cette semaine. Et quand on voit ce genre de graphique, difficile de vous demander à quel moment on va commencer à racheter du chocolat. Autrement, Zurich Assurance. Alors, Goldman Sachs a baissé l'objectif de cours de l'assurance zurichoise. Alors, il passe à 581 francs suisses contre 599 précédemment. Mais tu parles d'un truc qui sert à rien, surtout dans ce genre de semaine. Le gars, il a baissé son price target de 20 balles, même pas. Juste parce que, bon, c'est pas ouf, ouais, c'est compliqué, mais faut dire quelque chose au milieu du meltdown général. Bref, Goldman Sachs a baissé son target sur la Zurich. Bah, acheter la Zurich alors. Software One a été suspendu à la bourse suisse. Le prestataire de services informatiques a prolongé jusqu'au 29 avril l'offre de rachat sur son homologue norvégien Crayon. L'opération devait finalement se terminer ce vendredi, mais a donc été prolongée. Puis Bossart a annoncé des chiffres en hausse pour le premier trimestre, de janvier à mars. Le groupe de Zoug a vu ses ventes bondir de 10% sur un an à 283,9 millions. Meyer Burger a dévoilé des premiers chiffres négatifs pour son exercice 2024. Quelle surprise! Et c'est très très moche. Le titre s'est fait déglinguer encore une fois, mais à ce niveau-là, ça vaut même plus la peine de regarder les graphiques. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette semaine longue et compliquée et extrêmement volatile sur les marchés suisses et sur le reste du monde. Il faut dire que nous, en Suisse, on a quand même fait très fort cette semaine. La semaine qui nous attend, il n'y aura pas des tonnes de chiffres économiques. Les gros chiffres américains, il n'y en a pas. Il n'y a pas beaucoup de banquiers centraux qui vont parler. Mais quand même, il y a peut-être quelques-uns qui vont nous dire quelque chose aux États-Unis qui vont venir en panique. Petite chose quand même au milieu de tout ça, c'est qu'au milieu des banquiers centraux qui parleront, il y a quand même Monsieur Powell qui va parler entre mardi et mercredi. Donc ça sera quand même très, très intéressant à entendre. Parce que par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau du marché obligataire, il va falloir que la Fed se sorte les pouces et commence à se bouger un petit peu. À côté de ça, eh bien, Donald Trump peut nous faire à peu près tout, n'importe quoi quand il a envie. Donc ce sera vraiment le truc de nouveau très important durant la semaine à venir. Et en général, il se passe toujours des choses durant le week-end. Alors méfiez-vous pour lundi matin. Puis autrement, on surveillera quand même le ZEW en Allemagne et en Europe. On surveillera aussi le CPI en Europe qui viendra la semaine prochaine, même si on ne s'attend vraiment pas à grand-chose au niveau de l'inflation européenne. Bref, l'inquiétude est présente, la panique est toujours présente, bien sûr. Et puis, moi, je vous retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Je vous retrouve également, pour ceux que ça intéresse, demain dans l'émission Les Beaux Parleurs sur la RTS à midi, à la radio, mais ce sera aussi filmé. Et puis, autrement, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, à la partager. Et nous, on se voit lundi, bien sûr, comme d'habitude. Et puis, on a largement passé les 50 000, même les 51 000. Je suis bien conscient que ce n'est pas qu'à cause de moi, c'est parce que les marchés apportent aussi de l'intérêt à ce sujet. Mais enfin, content d'être là pour en parler avec vous. Très bon week-end, profitez bien et à tout bientôt. Bye bye !